Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote.
France Musique. Musicopolis.
Mai 1824, Vienne. Pour cette première audition de son œuvre, le compositeur se tient debout à la droite du chef d'orchestre afin de pouvoir donner le tempo de chaque mouvement. S'il ne dirige pas lui-même, c'est qu'il est sourd, totalement sourd. Des affiches ont annoncé le concert depuis quelque temps déjà. Affiches soigneusement relues par le compositeur qui ne veut pas qu'on écrive n'importe quoi. Le texte retenu est celui-ci. Le 7 mai aura lieu une grande académie musicale donnée par M. L. Van Beethoven. Des œuvres nouvellement écrites composeront le programme. Premièrement, grande ouverture. Deuxièmement, trois hymnes avec solo et chœur. Troisièmement, grande symphonie avec entrée dans le final de solo et chœur sur l'ode à la joie de Schiller. Les solos seront chantés par Mademoiselle Sontag et Unger et Messieurs Heitzinger et Zeipelt. Monsieur Schuppanzig conduira l'orchestre. Monsieur le maître de chapelle Umlauf dirigera l'ensemble. L'orchestre et les chœurs seront renforcés par la Société musicale d'amateurs. Monsieur L. Van Beethoven prendra une part personnelle à la direction. Le prix des places ne sera pas augmenté. La soirée est très réussie. Anton Schindler, qui fait office à cette époque de secrétaire de Beethoven, note dans la biographie qu'il lui consacre « Tous les sièges étaient pleins. Une seule loge demeurait vide, celle de l'empereur. » Il semble bien en effet que cette première exécution de la 9e symphonie de Beethoven ait été un réel succès. Une salle pleine et enthousiaste qui ne ménage pas les signes de contentement à la grande joie du compositeur. Schindler note à nouveau « Jamais de ma vie, je n'ai entendu des applaudissements aussi furieux et sincères qu'aujourd'hui. Le second morceau de la symphonie a été absolument interrompu une fois par les applaudissements, et il aurait fallu le recommencer. » En ce qui regarde le succès artistique de cette soirée mémorable, écrit Schindler, on peut dire qu'elle ne céda en rien à aucune des précédentes dans ce lieu célèbre. Malheureusement, celui que cela regardait le plus n'avait rien entendu. Il le prouva lorsque, à la fin de l'exécution, au moment de l'explosion des bravos, il tourna le dos au public. Par bonheur, Caroline Unger étant tout près, lui fit voir les transports de l'auditoire qui manifestait son admiration en agitant les mouchoirs et les chapeaux. Beethoven s'étant incliné pour remercier le public électrisé, ce fut le signal d'une explosion de joie, d'enthousiasme, manifestée par des applaudissements sans fin, en signe de gratitude pour une si grande jouissance. Si le succès artistique de la soirée de création de la 9e symphonie est grandiose, il n'en est pas de même pour le résultat financier. Personne n'est surpris, connaissant la difficulté de l'entreprise et tous les obstacles qui s'étaient accumulés sur son chemin. Personne, sauf Beethoven lui-même, qui pourtant s'était inquiété auparavant de tous les frais afférents et du peu qui lui resterait. En apprenant le résultat du concert, raconte Schindler, il se trouva mal. Il fallut l'emporter et le mettre sur un sofa. Il y resta sans proférer une parole, sans demander ni à boire, ni à manger. Après l'avoir veillé assez tard dans la nuit, nous nous retirâmes. Beethoven s'endormit et passa la nuit tout habillé. Ses domestiques le retrouvèrent le lendemain matin, à la même place, dans sa toilette de concert. Remontons à présent un peu le cours du temps jusqu'aux premières pensées de Beethoven d'écrire une 9e symphonie. Mai 1812, le compositeur écrit à ses éditeurs Breitkopf et Hertel à Leipzig. J'écris 3 nouvelles symphonies, dont une est presque achevée. Mais dans le cloaque où nous nous trouvons, tout est à peu près perdu. Pourvu seulement que je ne me perde pas moi-même tout entier. Le compositeur fait allusion à la situation politique européenne. L'Autriche et la Prusse s'étant récemment alliées avec Napoléon Ier, alors que la France et la Russie s'apprêtent à entrer en guerre. Les 3 symphonies projetées sont les 7e, 8e et 9e. C'est la 7e qui est alors en voie d'achèvement et la 8e sera terminée à l'automne. Beethoven prévoit que la suivante sera en ré mineur. C'est bien la tonalité de la 9e symphonie. Mais à la fin de l'année 1812, une mystérieuse catastrophe dans la vie du compositeur va ajourner toute composition. Une catastrophe dont nous ne savons absolument rien, sauf qu'elle est advenue, cela par quelques mentions laconiques éparses dans ses carnets. Et c'est seulement en 1817, 5 ans plus tard, qu'il mentionne dans une lettre qu'il commence à travailler à 2 symphonies entièrement nouvelles. 1817, Beethoven est malade, triste, assez déprimé. Et cependant, il se remet au travail, alors que depuis 5 ans, il n'a produit que des œuvres de circonstance ou des œuvres considérées comme mineures. Mais aucune grande œuvre, comme il en a déjà de nombreuses dans son catalogue. Un opéra, 8 symphonies, 5 concertos pour piano, 1 pour violon, 11 quatuors, 28 sonates pour piano, et j'en passe. Cette année-là, 1817 donc, il ébauche le premier mouvement de la 9e symphonie. Puis, il met de côté ce travail pour composer la sonate pour piano, dite aujourd'hui Hammerklavier, l'opus 106. Dès qu'elle est terminée, il va passer près de 3 ans sur une messe, la Missa Solemnis. Au milieu, il trouve le temps d'écrire les variations Diabelli et ses 3 dernières sonates pour piano, numérotées opus 109, 110 et 111. C'est seulement à la fin de 1822 qu'il se remet sérieusement à sa 9e symphonie. Il y a déjà longtemps que Beethoven a reçu de Londres la commande d'une symphonie pour la Société Philharmonique. Voilà un grand projet qui lui tient à cœur. En fait, il songe même à 2 symphonies. L'une entièrement instrumentale, la fameuse symphonie en ré mineur projetée depuis 1812, et une autre qu'il veut entièrement différente. Sur son cahier d'esquisse, il note « symphonie allemande ou avec variation après le chœur quand il entre ou bien sans variation ». Fin de la symphonie avec musique turque et chant choral. La musique turque, c'est tout simplement l'utilisation de percussions, cymbales, triangles et grosses caisses, comme on en trouve déjà dans l'enlèvement au sérail de Mozart et dans bien d'autres œuvres de la fin du XVIIIe siècle. En 1823, le compositeur planche donc sur la symphonie instrumentale. Après un grandiose premier mouvement et un scherzo très original, le 3e mouvement sera lent et chantant bien sûr. Adagio, molto e cantabile.
Thank you.
Depuis ses 22 ans, en 1792, depuis plus de 30 ans donc au moment où il compose sa 9e symphonie, Beethoven a le désir de mettre en musique l'Ode à la joie de Schiller, paru en 1785. De loin en loin, il note des ébauches de thèmes sous certains vers. En 1798, en 1804, en 1812, on peut dire qu'il a de la constance. Depuis longtemps aussi, il voudrait intégrer la voix à une symphonie. Il y a déjà pensé pour le final de la 6e symphonie, la pastorale. Et depuis 1795, Beethoven est poursuivi par une mélodie qu'il emploie dans plusieurs œuvres successivement. Dans un lied d'abord, puis dans l'esquisse de 1804 sur l'Ode à la joie, dans la fantaisie pour piano, chœur et orchestre de 1808 et dans un autre lied en 1810. Un thème qui se cherche, qui n'est pas encore tout à fait mûr et qui revient encore sous sa plume en 1822, cette fois-ci avec les paroles de Schiller, est totalement abouti. En octobre 1823, alors qu'il a déjà trouvé le thème du final de sa symphonie purement instrumentale, soudain, Beethoven change d'avis. Il va terminer par un morceau avec chœur et les paroles seront celles de l'Ode à la joie de Schiller. Mais comment l'introduire dans la symphonie ? Dans cette introduction du 4e mouvement de la symphonie, Beethoven a cité le début du 1er mouvement. Dans ses esquisses, il écrit « Non, cela nous reporterait par le souvenir à notre état de désespoir ». Devant la mélodie du 2e mouvement, il écrit « Pas ça non plus, ce n'est là qu'une farce, seulement un peu plus gai. Trouvons quelque chose de plus beau et de meilleur ». Enfin, devant la mélodie du 3e mouvement, Beethoven écrit dans son cahier d'esquisses « Pas ça non plus, c'est trop tendre, il faut qu'on cherche quelque chose de plus allant ». Et voici qu'à la suite du récitatif instrumental se profile un dernier thème, celui qu'on n'a pas encore entendu ni avec ni sans parole et qui va s'avérer être celui de l'hymne à la joie qui va nourrir le final de la symphonie. Avec les remarques qu'il a écrites sur les esquisses du final de la 9e symphonie, Beethoven nous a donné une sorte de récit du déroulement psychologique de l'œuvre. On est passé d'abord par le désespoir, puis la farce trop gaie, la tendresse. À présent, il lui faut quelque chose de décidé et de vif, ce que nous trouverons dans la mélodie qui a mis 30 ans à venir au jour. Mélodie qui va soutenir les mots de Schiller, mais qui apparaît d'abord seulement avec les instruments. Après la surprise d'avoir entendu les contrebasses et les violoncelles dans un grand récitatif tellement vocal, nous les retrouvons à présent qui chantent la mélodie sans autre accompagnement. Le mouvement est lancé, la mélodie a été chantée par l'orchestre, c'est le moment d'introduire les voix en apothéose de la symphonie.
Freunde, nicht diese Töne.
Avant les mots de l'ode à la joie, Beethoven a ajouté une petite introduction de son cru en référence aux mélodies des trois premiers mouvements. Il écrit « Ô amis, pas ces sons, chantons plutôt un chant plus agréable et plus joyeux ». C'est alors qu'il redonne la mélodie que nous avons déjà entendue jouée par l'orchestre, cette fois-ci avec le texte de Schiller. « Joie, belle étincelle des dieux, fille de l'Élysée, nous pénétrons brûlant d'ivresse dans ton sanctuaire, ô céleste. Tes charmes relient de nouveau ce que la mode a rigoureusement partagé. Tous les hommes deviennent des frères, là où plane ton aile douce. »
Lorsqu'il achève sa 9e symphonie, Beethoven sait qu'il est très connu à Vienne et qu'on le considère comme un très grand homme. Mais il sait aussi que les Viennois ont un faible pour la musique de Rossini et que la sienne ne plaît plus autant. Il envisage donc de donner la création de l'œuvre à Berlin, où on l'apprécie bien davantage. Mais son fan club de Vienne s'inquiète et lui fait parvenir une longue adresse, publiée dans les journaux, signée par une trentaine de ses admirateurs, pour qu'il veuille bien présenter l'œuvre d'abord dans la capitale autrichienne. Le compositeur est touché, il se rend à leurs arguments. Ce qui va lui occasionner de multiples soucis pour faire jouer l'œuvre. Trouver la bonne salle, le bon chef, les chanteurs, les copistes, se battre pour que les chanteurs ne changent pas une note à leur partie, pour faire chanter les contrebasses. Enfin, la soirée se passe. L'accueil est enthousiaste, mais lors du deuxième concert, 3 semaines plus tard, la salle est presque vide. Beethoven est dépité, certes, mais il sait bien, au fond de lui, qu'il a travaillé pour les générations futures. Le final de la 9e symphonie de Beethoven avec le chœur Monteverdi, l'orchestre révolutionnaire et romantique sous la direction de John Eliot Gardiner. Tout le programme, la réécoute, le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Éric Boisset pour le mixage, Françoise Monteil pour les recherches et le site et Claire Lagarde pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.